On va continuer dans notre étude. Nous avons pour habitude d'étudier la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et là, nous sommes en ce moment dans le livre d'Osée. Osée, c'est un des petits prophètes, le premier des petits prophètes. Donc, si vous voulez vous tourner dans le livre d'Osée, nous allons étudier aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 9. Et avant de commencer, on va remettre ce temps au Seigneur. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Ta parole est la vérité. Sur elle, nous pouvons fonder nos vies, Seigneur. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de cacophonie même. Il y a des tas de théories, il y a des tas de doctrines, il y a des tas de philosophies de vie. Seigneur, nous savons que nous pouvons, dans la foi, nous tourner vers toi et recevoir ce que ta parole nous dit, Seigneur. Cette Bible que l'Esprit Saint a inspirée à des hommes, Seigneur, le même Esprit Saint vient nous la révéler et parler à nos cœurs. Et c'est notre prière ce matin, Seigneur, que tu puisses avoir notre attention, l'attention de nos cœurs, pour que nous recevions, Seigneur, ce que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Nous t'avons chanté, nous t'avons demandé de descendre des cieux. Seigneur, c'est ton Esprit Saint qui est là, parmi nous, en nous, pour ceux qui t'ont reçu. Sois à l'œuvre, parle-nous, Seigneur. Amen. Alors, c'est intéressant parce que, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on étudie l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. On sait que le Nouveau Testament a été écrit au début de notre ère, donc dans les années 100, 200, même un peu plus tôt pour certains des livres que Tonio étudie le jeudi soir. Et on peut se demander, là, on étudie l'Ancien Testament qui a été écrit près de 1000 ans auparavant, et on peut se demander qu'est-ce qu'on fait à étudier des passages aussi anciens, quel est le rapport avec ma vie aujourd'hui. Et ça, c'est la beauté, le miracle de la parole de Dieu, c'est qu'elle reste d'une actualité brûlante. Et nous avons l'exemple de la relation de Dieu avec son peuple d'Israël. Dieu n'a pas fini avec Israël, il a des plans, il veut sauver ce que la Bible appelle un reste d'Israël, mais il veut sauver vraiment tous les hommes. Sauver, ça veut dire soustraire aux conditions, aux conséquences terribles du problème qui est en chacun de nous. Peut-être que vous vous considérez comme une bonne personne. Et c'est vrai, sans doute, que vous n'avez jamais encore tué votre banquier, que vous n'avez jamais, je l'espère, violé de petits-enfants, que vous n'avez jamais livré à la corruption à grande échelle. Peut-être que vous avez ramené des stylos à la maison de votre travail. La Bible dit que c'est déjà du vol. Mais nous avons hérité de nos ancêtres, d'Adam et Ève, nous avons hérité cette maladie qui est plus grave que la maladie du sida. Une maladie héréditaire qui fait qu'on est tous à la base des égoïstes, qu'on est tous à la base, à la recherche de notre propre intérêt, que la Bible dit même que nos bonnes actions souvent sont entachés de motivations qui ne sont pas justes. On peut ainsi donner de l'argent à des pauvres, mais c'est pour nous donner bonne conscience, nous permettre de nous dédouaner en quelque sorte. On a une pensée toute particulière pour les familles endeuillées par le terrible tremblement de terre en Équateur. J'ai un beau-frère qui travaille là-bas, à l'installation d'un hôpital de campagne avec, avec l'association, avec l'organisation de Samaritan's Purse en ce moment. Et il y a beaucoup d'associations non chrétiennes qui aident. C'est très bien, mais la Bible nous dit que souvent ces bonnes actions, quelque part, on les fait avec des arrière-pensées égoïstes. On veut dire aux autres, regardez, moi je vais aider les pauvres qui souffrent. Mais peu importe, on a tous en nous cette vieille nature, et Dieu ne peut pas tolérer le péché. Le péché, c'est contraire à sa nature. Le péché, il doit le faire disparaître, en fin de compte. Et quand on réalise que justement le péché, c'est pas seulement faire un crime haineux, faire un crime plein d'horreur et d'atrocité, mais que lorsque j'ai une mauvaise pensée envers quelqu'un, lorsque je ne fais pas une bonne action que je pourrais faire, lorsque je fais des mauvaises actions, lorsque je dis des choses blessantes, lorsque je ne dis pas les paroles encourageantes que je pourrais dire, la Bible nous dit c'est du péché. Et donc quand on réalise que le péché c'est présent dans ma vie, et que j'entends dire que Dieu veut se séparer du péché, je commence à être inquiet. Je me dis, s'il doit punir le péché, moi qui participe au péché, je vais être détruit. Ça, c'est la mauvaise nouvelle de notre vieille nature, de notre péché. Le mot évangile, en grec, ça veut dire bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu, le Fils de Dieu est venu pour mourir à ma place. Il a pris la punition que mon péché mérite. Et le Père me dit que si je crois en ce sacrifice que la croix symbolise, si je crois en ce sacrifice, à ce moment-là, je suis au bénéfice du pardon de Dieu et Dieu m'invite à vivre dans sa maison. Le verset le plus célèbre de toute la Bible, c'est un verset dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne meure pas pour l'éternité, mais qu'il ait au contraire la vie éternelle. Et donc, Dieu a ouvert un chemin de salut, ce que la Bible appelle le salut. Je dis salut, être sauvé, parce que les conséquences de notre péché nous conduiraient à être punis pour l'éternité. Rejetés avec le péché, et ça veut dire être éloigné, séparé de Dieu. Et aujourd'hui, la Bible, Dieu veut que vous vous souveniez de votre Créateur. Alors certains essayent d'évacuer l'idée de Dieu en disant que nous sommes le fruit du hasard, un accident cosmique. Après, les psychologues, lorsqu'il y a une catastrophe, essayent de vous convaincre que vous avez une valeur intrinsèque. Désolé, si nous sommes le résultat d'un accident cosmique, nous n'avons aucune valeur intrinsèque. Et cette idée qu'on n'est qu'un accident permet à des gens de supprimer la vie comme ils le veulent. Supprimer le résultat d'un accident, c'est pas grave. Je souris en me souvenant de mon petit-neveu à qui les parents avaient expliqué que justement certains pensaient qu'il y avait des accidents cosmiques et il avait vu deux voitures se rentrer dedans. Il avait dit, papa, est-ce que ça veut dire qu'il y a un bébé qui est né quelque part? C'est un peu bébête, un peu drôle en même temps, mais à la fin du compte, c'est ce que croient nos plus brillants scientifiques lorsqu'ils rejettent Dieu et qu'ils oublient leur Créateur. On va voir aujourd'hui que d'oublier son Créateur, ça a des conséquences fâcheuses. On va en trouver sept conséquences d'oublier son Créateur. Et donc aujourd'hui, peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas dans vos pensées, de penser qu'il y a un Dieu qui vous a créé, un Dieu qui vous aime. Mais peut-être qu'en voyant les conséquences de ne pas se souvenir de son Créateur, vous allez vous dire qu'en fait, peut-être il serait bon pour vous de vous soucier de votre Créateur. On va lire ensemble ce passage dans Osée, chapitre 9. Donc si vous avez besoin d'une Bible, levez la main et quelqu'un viendra vous en amener une, ou allez vous servir si vous avez besoin. Je vous invite d'ailleurs, si vous n'avez pas encore de Bible, à en acheter une, ça ne coûte pas cher. Et comme ça, vous pourrez noter les versets qui vous interpellent. Souvent, les gens disent « Mais Dieu te parle à toi ?» Tu as une voix dans le ciel qui dit « Pierre, je crois que tu ne devrais pas faire cela. » Alors, franchement, je n'ai jamais entendu une voix pareille. Dieu merci. Mais Dieu me parle lorsque je lis sa parole et que quelque chose m'interpelle, quelque chose me... J'ai envie de souligner ou j'ai envie de colorier le verset. C'est comme ça que Dieu vous parle. Et vous pouvez noter dans votre Bible. La Bible, c'est un livre sacré par son contenu. C'est pas la page et l'encre. Vous pouvez gribouiller sur votre Bible. Évitez de gribouiller sur les Bibles qu'on vous passe pour ne pas que les prochains lecteurs soient attirés vers vos gribouillis. Verset 1, chapitre 9 de Osée. Israël, ne te livre pas à la joie, à l'allégresse comme les peuples. En effet, tu t'es prostitué en abandonnant ton Dieu. Tu as aimé un salaire impur dans toutes les aires à blé. L'aire de battage et le pressoir ne les nourriront pas et le vin nouveau leur fera défaut. Ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel. Éphraïm retournera en Égypte et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Arrêtons-nous là. Une des premières conséquences d'oublier son Créateur, de ne pas penser à Dieu, alors ça ne veut pas dire être un spécialiste de la Bible, mais ça veut dire est-ce que vous vous demandez d'où vous venez ? Est-ce que lorsque vous voyez un coucher de soleil, la beauté de la nature, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a créé cela pour que vous puissiez l'apprécier? Ou est-ce que vous vous dites, Dieu n'existe pas, je peux faire n'importe quoi. On me l'a dit, je suis le résultat d'un accident cosmique. La première des conséquences, c'est la perte de joie. Est-ce que votre vie est remplie de joie ou est-ce qu'elle est triste? Est-ce que vous pouvez être seul, sans internet, sans wifi, sans votre smartphone, votre plaquette, votre tablette? Est-ce que vous pouvez être face à vous-même, face à Dieu et ne pas paniquer? Il y a des personnes, si on retire la télé, si on retire les nouvelles et qu'on les laisse être devant eux-mêmes ou face à face avec eux-mêmes, ils paniquent. Parce que la vie n'a pas de sens. La maladie nous touche tous plus ou moins, tôt ou tard. On a des chagrins d'amour. On a la perte d'êtres chers qui nous plonge dans le chagrin. On a les mauvaises nouvelles du licenciement, de la présence d'un cancer dans notre corps. Et si on est seul face à ces terribles choses, malgré ce que les chanteurs chantaient, il n'y a pas de la joie. Charles Trenet disait « Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. » Alors ça, c'est au premier degré, On peut être gai devant une belle journée de printemps, mais est-ce qu'il y a cette joie profonde dans votre cœur? Et là, Dieu parle au royaume du Nord. Il y avait, vous en souvenez peut-être, si vous avez eu un enseignement religieux, il y avait le peuple d'Israël qui avait hérité d'un royaume, enfin, il y avait eu un royaume sous le roi David et le roi Salomon. Et à la fin du règne du roi Salomon, le royaume a été divisé en deux. Là, le prophète Osée s'adresse tout particulièrement au royaume du Nord, dont la capitale était Samarie. Et Dieu accuse par le prophète Israël de s'être prostitué en abandonnant ton Dieu, en oubliant son Créateur. C'est un terme un peu fort, se prostituer. Mais c'est bon de revenir un peu sur le contexte du prophète Osée. En fait, lorsque je m'adonne au péché, lorsque je ne vis pas comme Dieu le veut, je fais plus que briser les commandements, je brise le cœur de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, et les commandements qu'il nous donne, ce n'est pas pour notre malheur, c'est au contraire pour notre bien. C'est pour nous éviter bien des déboires, bien des chagrins. Pour montrer la douleur de Dieu lorsque son peuple, et en fait tous les hommes, s'éloignent de lui, il a demandé au prophète d'aller épouser une prostituée infidèle. Aller épouser une femme qui était connue pour se livrer à des actes sexuels avec des hommes pour de l'argent. Dieu dit que lorsque nous adorons autre chose que Dieu lui-même, nous sommes infidèles à lui. C'est comme si nous nous prostituions. L'idolâtrie. Alors l'idolâtrie, on a souvent l'image de peuples primitifs qui s'inclinent devant des statuettes, devant des dieux représentés par ces images ou par ces représentations en 3D. Mais ça va bien au-delà de la statuette. L'idolâtrie, c'est en fait adorer quelque chose qui ne mérite pas d'être adoré. Ça peut être le PSG. Ça peut être le sport. Ça peut être les plaisirs. Ça peut être l'éducation. J'ai déjà une maîtrise ou une licence. Mon rêve, c'est d'avoir le doctorat. Et puis après le doctorat, j'aimerais bien faire de la recherche et peut-être être capable de gagner le prix Nobel. Dieu dit que si c'est ça votre premier but dans la vie, c'est une idole. Pourquoi ? Parce que ces choses-là ne vont vous être d'aucune aide lorsque vous allez rencontrer des souffrances, des obstacles dans votre vie. Vous n'allez pas demander au diplôme de prix Nobel de vous aider lorsque vous êtes malade. Vous pouvez peut-être prier, mais je vous garantis que le disque d'or de Prince n'a rien fait pour le sauver de cette mort dont il vient de faire l'expérience. Tout ce qui prend la place qui revient à Dieu, c'est une idole. Et lorsque l'on se donne à ces idoles, et ça peut être des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, ça peut être l'amour de sa famille. Mais si, parce qu'on veut plaire à sa famille ou ne pas avoir d'hostilité envers elle, on renonce à Dieu, alors la famille devient une idole. Tout ce qui s'oppose à ma relation personnelle avec un Dieu qui m'a créé et qui m'aime, c'est une idole. Et lorsque je m'adonne à cette idolâtrie, c'est comme si je me prostituais. Je fais ça pour un gain immédiat. Les pauvres femmes qui se prostituent Elles font ça pour un gain, par menace peut-être, parce qu'elles sont tombées dans les mains de réseaux qui les menacent et qui veulent simplement faire de l'argent en utilisant leur corps. Israël ici représente le peuple de Dieu. Ça me représente moi, ça vous représente aussi. Tu as aimé un salaire impur dans toutes les aires à blé. Alors là, il faut un peu d'arrière-plan historique. Lorsqu'il y avait des récoltes de blé qui poussaient dans ce pays d'Israël, on allait sur les sommets des montagnes où il y avait du vent pour séparer le grain du son, de l'enveloppe. On pouvait jeter les grains dans le vent, ils retombaient, et par contre le vent emmenait le son, l'enveloppe légère qui recouvrait les grains de blé. Israël allait donc dans ces endroits, ces aires à blé, et souvent ils devaient dormir là pour garder leur blé, ça prenait plusieurs jours, et là il y avait des prostituées qui venaient pour trouver des clients la nuit. Et donc Dieu parle, tu as aimé un salaire impu dans toutes les aires à blé. L'aire de battage, c'était cet endroit où on séparait le blé de son enveloppe. Et le pressoir pour les vignes, ne les nourriront pas et le vin nouveau leur fera défaut. Il ne va pas y avoir de joie. Ils vont avoir un salaire impur. Les ressources de blé, de vin, ne suffiront pas à les nourrir. Le vin nouveau, le bon vin, le Beaujolais nouveau ne sera pas là, ne sera pas au rendez-vous. C'est une des premières conséquences de ne pas penser à Dieu. Vous pouvez avoir une joie passagère. Vous pouvez rire en entendant des comiques, mais vous sentez vide à l'intérieur. Et si c'est ça que vous ressentez en ce moment, prêtez attention, reste, Dieu veut vous parler aujourd'hui. Verset 3 va nous parler d'une autre conséquence, une autre perte d'oublier Dieu, c'est l'absence de réconfort. Ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel. Éphraïm retournera en Égypte et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Ils ne verseront pas de vin en l'honneur de l'Éternel. Leurs sacrifices ne lui seront pas agréables. Ce sera comme un repas de deuil pour eux. Tous ceux qui en mangeront se rendront impurs. Oui, leur pain ne sera que pour eux. Ils n'entreront pas dans la maison de l'Éternel. Il n'entrera pas, parlant du pain. Un des réconforts du peuple de Dieu, c'était de célébrer Dieu suivant des rituels dans un lieu consacré qui était le temple. Mais là, il est dit qu'ils ne vont pas rester dans leur pays, ils vont partir en exil. Il parle de l'Égypte, qui était le pays où Israël avait connu l'esclavage. C'est, on le pense, les Israélites qui avaient été la main-d'œuvre bon marché des pharaons pour construire les pyramides et les autres grands monuments qu'on trouve encore là-bas. Et puis, ils allaient être emmenés, en fait, ils vont être amenés en Assyrie. Et on l'a annoncé plusieurs fois, la Syrie était connue pour sa cruauté, du moins celle de ses habitants. C'est eux qui ont inventé la crucifixion lorsqu'ils emmenaient des esclaves chez eux. Ils les mettaient complètement nus pour les humilier devant les autres peuples. Et ils leur accrochaient un hameçon dans la joue et ils mettaient ça sur une seule ligne. Donc c'est un peu comme s'ils avaient attrapé un gros poisson, ils avaient toute une file de personnes qui partaient en esclavage. Les Assyriens étaient connus pour une cruauté, je crois qu'on pourrait comparer à celle de Daesh aujourd'hui. Une cruauté gratuite, pleine d'aspects maléfiques, de quelque chose de repoussant, d'inimaginable pour la plupart des gens. Et en fait, comme ils allaient quitter leur pays, là-bas, il n'y aurait aucune possibilité de consacrer leurs aliments, de célébrer leur Dieu. Il n'y aura pas de vin versé en l'honneur de l'Éternel, c'est ce qu'on appelait les libations. On pouvait verser du vin en l'honneur de Dieu. On offrait des sacrifices. Ça, c'est tout le système des sacrifices de l'Ancien Testament, c'est pour nous montrer que le péché, c'est quelque chose qui n'est pas facile à effacer. On a tendance à penser aujourd'hui que tout le monde s'adonne au péché, que personne n'est parfait. Ça, c'est la grande excuse. Personne n'est parfait. Et lorsque il y avait ces péchés, l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, parlait d'offrir des sacrifices d'animaux. Le sang devait couler. Et tout ça, c'est une préfiguration du sacrifice parfait, du sang versé par Jésus-Christ à la croix une fois pour toutes. Là, il devait répéter ses sacrifices jour et nuit, pratiquement. Une fois l'an, il devait offrir un taureau en sacrifice pour le peuple et un taureau pour le grand prêtre pour qu'il puisse entrer dans le Saint des Saints, dans le temple, qui était d'abord un tabernacle, c'est-à-dire un temple en toile de tente, et puis qui était devenu le grand temple de Jérusalem, construit par Salomon. Ce sera comme un repas de deuil pour eux. Et ceux qui en mangeront se rendront impurs. Leur pain ne sera que pour eux. Leur ressource sera juste ce qu'il faudra pour eux. Ils ne pourront pas offrir du pain dans la maison de l'Éternel. Lorsque l'on oublie son Créateur, les choses légitimes qui peuvent nous réconforter disparaissent. On est face aux conséquences de nos péchés. On est dans la douleur, dans la tristesse, dans le remords, mais ça ne suffit plus. Une autre conséquence, je termine là. Que ferez-vous ? Ils ne verseront pas de vin. Je lis le verset 5 aussi. Que ferez-vous lors des jours solennels, lors des fêtes de l'Éternel ? Les voici qui partent, car le pays est dévasté. L'Égypte les accueillera, Memphis. Pas au Tennessee, mais en Égypte, leur donnera des tombeaux. Ce qu'ils ont de précieux, leur argent sera pris par les orties et les ronces pousseront dans leurs tentes. Toutes les choses que vous pouvez accumuler dans votre vie, vos richesses, tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne vous est d'aucun secours lorsque vous tombez gravement malade. Lorsque vous décédez, vous êtes face à la mort. Troisième conséquence, d'oublier son Créateur, c'est la perte de discernement. Une autre façon de dire ça, c'est que le péché rend stupide. Il y a quelques années, on avait un jeune interne qui avait fait un petit traité pour le festival de Cannes. C'était pas, on le distribuait, disons, au festival de Cannes. Et il disait, ne mourrez pas stupide. Ça veut dire, ne mourrez pas sans avoir pensé à votre Créateur. Et c'est vrai que lorsqu'on s'adonne au péché, lorsqu'on vit dans des choses qui déplaisent à Dieu, une des premières conséquences, c'est qu'on arrive à avoir un jugement biaisé, on a un jugement qui n'est plus sain, on ne peut plus apprécier les choses et les conséquences de nos actes de façon rationnelle et logique et valable. Ils arrivent, verset 7, ils arrivent les jours de l'intervention, ils arrivent les jours de la rétribution, la punition, Israël va le savoir. Eux, ils disaient, le prophète est fou, l'homme inspiré délire. Donc ces gens, lorsqu'on leur reprochait des choses, au lieu de dire, c'est vrai, je vais me repentir, je vais changer de voie, ils disaient, celui qui m'annonce ces choses-là, le prophète Osée, il est cinglé, il est complètement, il délire. C'est à cause de la grandeur des fautes du peuple et de ta haine. Lorsqu'on veut rejeter un message, on rejette le porteur de ce message. Il y a des passages dans le Nouveau Testament où on voit que l'apôtre Paul défend sa personnalité, sa vie, et on peut penser, en fait, c'est un orgueilleux. Non, il veut défendre le message en défendant le messager. Je suis digne de foi. Si vous vivez dans le péché, vous allez prendre des décisions que vous allez regretter. Des décisions qui vont amener des conséquences fâcheuses dans votre vie. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas demander conseil à Dieu par la prière, en lisant, et si vous en remettez à votre sagesse, la sagesse d'en bas, vous en remettez à une sagesse très imparfaite. Par contre, Dieu, il est parfait et il veut nous communiquer cette sagesse. Jacques, dans son épître, dira « Demandez à Dieu qu'il vous donne sa sagesse, la sagesse d'en haut. » Est-ce que vous pouvez penser à des décisions que vous avez prises dans votre vie que vous regrettez parce que elles étaient vraiment pleines de manque de sagesse ou elles étaient vides de toute sagesse? Moi j'en ai et c'est vrai qu'on a du mal à vivre avec les conséquences de ces mauvaises décisions. Dieu nous dit, si vous ne pensez pas à moi et que vous en remettez à vous-même pour prendre vos décisions, vous n'allez pas avoir de discernement, vous allez faire des bêtises. Vous allez vivre dans le péché. Ils sont plongés. Éphraïm est un guetteur contre mon Dieu. Un prophète est un filet d'oiseleur. Sur toutes ses voies, il y a de la haine dans la maison de son Dieu. Les gens pensent que Dieu est contre eux. Ils pensent que ils veulent juger le prophète comme quelqu'un qui leur fait du mal, alors qu'en fait, Dieu leur envoie le prophète pour leur dire comment vivre. Perte de joie, perte de réconfort, perte de discernement, perte de pureté. Verset 9, ils sont plongés dans la corruption comme à l'époque de Gibéa. Pas Gibéar, pour ceux qui ont connu ce chanteur. Gibéa, on va y revenir. L'Éternel se souviendra de leur faute. Il punira leurs péchés. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos ancêtres comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal Péor. Ils se sont consacrés à l'infâme idole. Et ils sont devenus aussi détestables que l'objet de leur amour. Si nous oublions notre Créateur, nous allons tomber dans l'impureté. S'il n'y a pas de rétribution, s'il n'y a pas de jugement de Dieu, alors c'est vrai, on peut faire n'importe quoi, et notre vieille nature, notre nature de pécheur, héritée de nos ancêtres, elle va nous conduire à faire n'importe quoi, à nous plonger dans la corruption. Dans quelques minutes, on va plonger Anne-Laure et Alessandra dans l'eau froide de la Méditerranée. Et c'est toujours un sentiment incroyable de se dire que on est là dans l'eau et qu'il y a plein d'eau. Il y a des millions, des milliards de litres d'eau dans cet océan, dans cette mer Méditerranée qui est une petite mer comparée à l'océan Atlantique, à l'océan Pacifique. Là, on se plonge dans la corruption. Il fait allusion à un événement tragique de l'histoire du peuple d'Israël, l'épisode de Gibéa. Vous pouvez noter, c'est dans Juges 19 et 20, dans le livre des Juges. Il y avait à l'époque un lévite, c'est-à-dire un prêtre juif, israélite, qui était venu dans la ville de Gibéa avec sa concubine. Et un habitant lui avait dit, c'est pas prudent de rester dehors, les habitants ici sont pas dignes de confiance, viens loger chez nous. À l'époque, il n'y avait pas d'ibis, il n'y avait pas d'hôtel, pas de bon marché. L'hospitalité, qui est toujours importante aujourd'hui, était primordiale. Et donc, il avait invité ce couple à venir. Mais cette ville était tellement corrompue qu'il y avait des hommes qui s'étaient rassemblés, des homosexuels qui voulaient que l'habitant leur donne en pâture, entre guillemets, le lévite. Et les femmes n'ayant pas une grande considération, n'étant pas considérées, plutôt elles étaient considérées comme faisant partie du cheptel, où c'est assez horrible, l'habitant de Gibéa a dit aux hommes qui frappaient à sa porte, qui menaçaient de casser la porte, « On va vous passer la concubine de ce lévite et vous lui faites ce que vous voulez. » Et toute la nuit, ces hommes ont violé cette femme, si bien qu'au petit matin, elle est décédée. Et l'homme, devant cet acte horrible, a découpé en 12 morceaux le corps de sa concubine, en les envoyant aux 12 tribus d'Israël pour montrer l'horreur du péché des habitants de Gibéa qui habitaient dans le pays de Benjamin. Ça a déclenché une guerre civile. Les autres tribus ont décidé qu'ils devaient venir punir ce meurtre atroce. Finalement, le peuple de Benjamin n'a pas été complètement supprimé, mais ça vous montre à quel point la corruption était arrivée dans l'histoire du peuple d'Israël. Et là, il dit, vous oubliez Dieu et ça va vous conduire à la corruption et à la perte de pureté. L'Éternel va se souvenir de leurs fautes, il va punir leurs péchés. Verset 10, il rappelle qu'il avait trouvé Israël comme des raisins dans le désert, un pays aride, il y avait des bons fruits. Il avait placé sa confiance dans ce peuple. Il voyait les ancêtres des habitants de l'époque comme les fruits d'un figuier. Le figuier représente souvent Israël dans l'Ancien Testament comme une image. Nous, on parle du coq gaulois. Là, c'était le figuier israélien ou l'aigle américain. Et il parle d'un endroit, Baal-Péor, où ils se sont consacrés à l'infâme idole et sont devenus aussi détestables que l'objet de leur amour. Ça continue dans ce registre de la pureté perdue. Il y avait un roi, Balak, dans le livre des Nombres, chapitre 25. Je vous invite à y retourner plus tard pour lire l'histoire. Et ce roi Balak avait peur de l'arrivée du peuple d'Israël qui venait d'Égypte et qui était précédé, entouré par ce Dieu Tout-Puissant qui ouvrait la voie, qui leur donnait la victoire sur les peuples païens. Et il y avait un dénommé Balaam qui avait des dons prophétiques. Et le roi Balak avait demandé à ce prophète Balaam de maudire Israël, de maudire ce peuple d'Israël qui arrivait vers eux. Et l'intérêt, c'est que lorsque Dieu a décidé de bénir quelqu'un, généralement, il nous appelle tous à venir à lui, et lorsque nous venons à lui, il nous bénit. Ils n'arrivaient pas à maudire le peuple d'Israël. Il essayait de dire de mauvaises choses, mais sa bouche, ça sortait en paroles de louange d'Israël. Dieu est tout puissant. Dans le Nouveau Testament, il est prédit que les apôtres, les disciples de Christ auraient à comparaître devant des tribunaux. Et il nous est dit de ne pas nous préoccuper de ce que nous allons dire, car au moment voulu, l'Esprit Saint nous donnera les paroles justes qui feront taire nos adversaires. On peut faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Aujourd'hui, on a souvent recours à des avocats, mais je vous invite à inviter Dieu dans votre cas, à intervenir, souvent de façon beaucoup plus spectaculaire et plus puissante que le meilleur des avocats que vous allez payer très cher. Ils sont allés vers Baal Péor. En fait, c'est ce prophète qui n'arrivait pas à maudire le peuple. Il a suggéré au roi Balak, qui voulait détruire les Israélites, qu'en fait, la meilleure façon, c'était de les séduire sexuellement. De faire que les jeunes filles de Moab, du roi Balak, viennent séduire les jeunes Israélites. Et par le péché sexuel, ils allaient se livrer à la colère de Dieu, s'exposer à la colère de Dieu. C'est ce qui s'est passé. Ils se sont consacrés à l'infâme idole, le dieu Baal. C'était un dieu qui était supposé bénir les récoltes. Et son culte, ça consistait à avoir des relations sexuelles, des orgies, parce qu'il y avait la fertilité, il y avait des enfants qui naissaient, qui étaient des fois brûlés, comme aujourd'hui on fait des avortements. Il y avait des enfants qui mouraient. Et ça, c'était l'infâme idole. C'était l'idole de mon intérêt. Les Israélites se livraient à cette adoration parce qu'ils voulaient que leur récolte soit bonne, soit riche. Et ils disent qu'en fait, ils sont devenus aussi détestables que l'objet de leur amour. Ça, c'est une règle aussi, qu'on devient semblable aux choses qu'on adore. Vous avez vu des fois des gens qui adorent Elvis Presley, et leur désir principal, c'est de se retrouver comme Elvis. Ils vont se déguiser en Elvis Presley. Alors ça, c'est dans le cas d'une idole de la chanson, mais si on adore la bourse, nos actions, on suit le cours des actions tous les jours, on sait que le marché boursier est très incertain, il est très volatile. De même, on va avoir des émotions, on va devenir imprévisible, volatile. Un jour, on va aller bien et le lendemain, on va être... Vous finissez par ressembler à ce que vous adorez. On voit peut-être vous avez vu sur Internet des photos de personnes qui finissent par ressembler à leur chien. Ils vont essayer d'imiter la coiffure qui ressemble au Labrador. Perte de joie, perte de réconfort, perte de discernement, perte de pureté. C'est précieux la pureté. Je veux encourager les jeunes filles, ne vous laissez pas séduire par des jeunes hommes qui vous disent qu'ils vous aiment. S'ils vous aiment, ils vous respecteront. S'ils vous disent que c'est faux, qu'ils vous aiment tellement qu'ils ne peuvent pas se passer de votre corps, c'est qu'ils sont des menteurs et tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir des relations sexuelles. Préservez votre pureté, et c'est valable aussi bien pour les garçons, bien entendu. Il y a aussi une perte de croissance. La gloire d'Éphraïm, verset 11, s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent des enfants, je les en priverai afin qu'ils ne soient des hommes, et malheur à eux quand je les abandonnerai. Aussi loin que portent mes regards du côté de Tyr, Éphraïm est planté dans un pâturage. Mais Éphraïm conduira ses enfants vers celui qui les tuera. Donne-leur, Éternel, que leur donneras-tu ? Donne-leur un ventre qui avorte et des seins desséchés. Au lieu de se multiplier, de gagner en importance et croître en tant que nation, la gloire du royaume d'Israël, c'est la gloire d'Éphraïm, c'est un autre nom, va s'envoler, il n'y aura plus de naissance, il ne va plus y avoir de croissance numérique. S'il y a des enfants, ils vont être supprimés, ils vont être envoyés vers des pays où, comme Daesh aujourd'hui, qui tue des enfants. Et le prophète, verset 14, donne l'heure éternelle. Il veut presque invoquer une malédiction sur ce peuple qui s'éloigne de Dieu, qui ne se préoccupe pas de son Créateur. Et puis il leur dit, que leur donneras-tu ? Donne-leur un ventre qui avorte et des seins desséchés. Ça, c'est pour dire qu'en fait, ne leur donne pas d'enfants, parce que les enfants vont souffrir de façon terrible. Et c'est bien parce qu'il peut avoir un sentiment de supériorité, mais il transforme ça en sentiment de compassion. Et ça, c'est un danger qui peut guetter certains chrétiens, c'est de se croire plus fort, plus spirituel que d'autres chrétiens. Et ça, c'est un mensonge qui conduit à l'orgueil, au mépris des autres, qui ne peut pas venir de Dieu. Si vous êtes, entre guillemets, plus spirituel, remerciez Dieu de vous avoir permis de grandir dans votre foi et priez pour les autres, instruisez-les, mais surtout n'allez pas mépriser les païens ou ceux qui ne sont pas aussi engagés, aussi consacrés que vous. Ça, c'est très important aussi. Perte de croissance, perte de fruits. Verset 15, toute leur méchanceté s'est montrée à Gilgal. C'est là que je les ai pris en haine. À cause de la méchanceté de leurs agissements, je les chasserai de ma maison. Je ne continuerai pas à les aimer. Tous leurs chefs sont des rebelles. Éphraïm est frappé. Sa racine est devenue sèche. Ils ne porteront plus de fruits. Et s'ils ont des enfants, chose terrible, je ferai mourir ces objets de leur tendresse. Si vous voulez que votre vie porte vraiment du fruit qui demeure, du fruit qui compte, tournez-vous vers Dieu, tournez-vous vers Jésus-Christ. Apprenez à le connaître. Je parlais ce matin avec un ami et il disait qu'aujourd'hui il célébrait l'anniversaire de son fils. Il avait cette remarque très juste, ce qui compte, ce sont les relations dans notre famille. Ce qui compte, c'est ça les vraies valeurs. C'est pas de faire plus d'argent, d'avoir une maison plus grande, d'avoir un nom mieux connu que les autres. Ce qui compte, c'est d'aimer votre Dieu et lui va vous inspirer de l'amour pour vos proches, pour votre famille, pour vos amis. Joie, réconfort, discernement, pureté, croissance, fruits, toutes ces choses vont être perdues. Et puis, il va y avoir une perte de communion avec Dieu. Mon Dieu, verset 17, mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté et ils seront errants parmi les nations. C'est intéressant parce que au cours de l'histoire, il y a eu ce thème du juif errant jusqu'à ce qu'ils retournent dans leur terre d'Israël. En 1947, les Juifs ont erré suite à cette prophétie d'Oséa. Ils sont restés un peuple errant parmi les nations païennes. On va juste terminer par le premier verset du chapitre 10. Israël était une vigne fertile qui produisait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Plus Dieu les a bénis et plus ils se sont tournés vers l'idolâtrie. Ça, c'est un dernier point. Ne remettez pas le mérite des bonnes choses qui vous arrivent à d'autres personnes que Dieu qui vous aime. J'ai gagné à la loterie, merci la chance. Alléluia. Non, Dieu vous a béni et il veut que vous utilisiez votre bénédiction pour bénir d'autres personnes autour de vous. Si vous oubliez votre Créateur, vous aurez toutes ces conséquences fâcheuses. La bonne nouvelle, encore une fois, c'est que vous n'avez pas à rester loin de Dieu. Vous pouvez vous tourner vers Dieu, vers Jésus-Christ, qui est mort pour vos péchés. Et le pardon des péchés, c'est quelque chose de merveilleux à expérimenter. Si vous avez vécu dans la culpabilité, lorsqu'on vous dit que vous êtes pardonné, c'est comme un poids est levé de vos épaules. Et c'est un thème répété dans la Bible, Jérémie 31-34, « Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Michée 7-19, « Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Psaume 103-12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. » Psaume 133, « Si tu gardais le souvenir des fautes, éternel, qui pourrait subsister ?» La seule façon d'être libéré, c'est de se retourner vers Dieu. C'est de vous repentir, vous marchiez en vous éloignant de Dieu. Il vous invite à revenir sur vos pas et aller à lui. J'ai trouvé une citation, je terminerai par ça. On a terminé plusieurs fois, mais voilà, là, c'est vraiment le début de la fin. Quand on commet des péchés, on peut avoir du remords. Souvent, ça peut être juste le regret. D'abord, le regret de s'être fait prendre. Mais on peut avoir du remords dans son cœur. Ce que Dieu veut, c'est de la repentance. Le remords, ça consiste à dire « Je suis mal parce que j'ai brisé les lois, les commandements de Dieu. J'ai brisé les lois de Dieu. Je n'ai pas respecté les lois de Dieu. » La repentance sincère, c'est de réaliser qu'en l'oubliant, en vivant pour mon propre plaisir, mes propres intérêts, j'ai brisé le cœur de Dieu. Et ça fait une différence de se dire j'ai brisé les lois de la République et j'ai brisé le cœur de Dieu en ne les respectant pas. J'ai brisé le cœur de Dieu en ne respectant pas ses commandements. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ces avertissements solennels. Merci de nous rappeler que tu es là, Seigneur. Tu nous as créés, tu nous aimes. Tu as de bons plans pour nos vies. Et Seigneur, souvent, lorsque les choses vont bien, surtout, nous t'oublions. Nous remercions la chance, nous remercions notre éducation, nous remercions nos relations. Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous à penser à toi, à te mettre au centre de nos pensées, à revenir à toi. Sachant que lorsque nous nous éloignons de toi, Seigneur, ce n'est pas simplement notre problème, c'est que nous te causons de souffrir. Comme le prophète Osée souffrait des infidélités de sa femme, Seigneur, tu veux nous dire que nous te brisons le cœur par nos péchés. Je te demande pardon pour mes péchés, Seigneur. Je te demande pardon pour tous mes frères et sœurs et nos amis présents qui, par leurs péchés, te brisent le cœur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.